Quand tu veux. Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Shalom Aleichem, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis seule, c'est Annette Fern. Et Astrid est partie à Paris voir l'exposition sur le D-Book. Voilà, donc nous allons aujourd'hui continuer à parler du D-Book. Donc cette exposition remarquable hommage au musée d'art juif va s'achever ce dimanche. Mais il y a un catalogue et puis il y a cette traduction donc de la pièce faite par Batia Baum et qui vient d'être éditée donc à la bibliothèque Medem de la Maison de la Culture Yiddish, une édition en bilingue. Donc la Maison de la Culture Yiddish fait depuis maintenant de nombreuses années des éditions bilingues qui sont à la fois très jolie et très pédagogique, puisqu'on peut s'appuyer sur le français pour comprendre le yiddish. Et elle a sorti plusieurs traductions de Batia Baum, en particulier une autre pièce de théâtre aussi très célèbre, La nuit sur le vieux marché de Peretz, mais qui a eu moins de succès. Et puis aussi des petits livres bilingues, très faciles à manipuler, de divers auteurs, et qui sont vraiment une très très bonne introduction pour quelqu'un qui veut lire du yiddish et avoir la traduction en face. Voilà, donc revenons à notre D-Book. Donc, je rappelle l'histoire de cette pièce de théâtre écrite donc par Hansky dans les années 1915-20, traduite par Bialik, par le grand poète hébraïque Bialik. Donc, cette pièce a été jouée quasiment simultanément à Varsovie en 1920 et puis en Israël, par la troupe Habima en 1922. Et ensuite, ces deux troupes ont fait des tournées mondiales. Là, nous sommes entre les deux guerres. Évidemment, tout ça s'est arrêté avec la guerre. Et puis, cette pièce a été montée ensuite encore beaucoup, beaucoup après la guerre, en particulier en français, dans les années 50. Et puis, dans toutes sortes d'autres langues. Il y a eu ici au TNS une remarquable mise en scène de Warlikowski en 2003. Il y a eu en Pologne une mise en scène en 2015. Il y a eu aussi en France encore une mise en scène aussi dans ces années-là. Voilà, donc ce D-Book continue à vivre. On peut dire il n'est pas mort, hein, même si c'est l'âme de quelqu'un qui est mort, mais lui n'est pas mort et continue son chemin, parce que peut-être aussi l'idée d'être possédé par l'âme d'un mort est quelque chose qui peut être, comment dire, que tout le monde peut avoir cette impression. Hein, voilà. Donc là, je vais vous présenter vraiment la pièce. Donc, que se passe-t-il avant, bien avant que l'histoire commence, il y a donc un serment de deux personnes, de deux hommes dont les femmes sont enceintes, qui sont en grand danger et qui se promettent que si jamais ils ont l'un un garçon et l'autre une fille, ils vont marier ensemble les deux enfants, enfin qui ne sont même pas encore nés. Et puis l'un des hommes meurt et l'autre devient très riche, celui qui a la fille devient très riche, et puis il s'établit dans une ville où arrive tout d'un coup un jeune étudiant de yeshiva, très pauvre, qui est en fait le fils de l'autre homme. Alors, ce jeune homme s'éprend de la jeune fille, donc le jeune homme s'appelle Ronan et la jeune fille s'appelle Leia, et puis le père ne veut pas de ce mariage, il estime qu'il n'a pas marié sa fille avec un jeune homme pauvre. On laisse dans la pièce, on laisse comment dire, le doute, est-ce qu'il a reconnu ou pas la, ou il a reconnu ou pas la, le jeune homme, on ne sait pas, mais en tout cas, il ne veut pas de ce mariage. Alors là, je vais vous lire des passages. Donc, Ronan, voyant que cette jeune fille va lui échapper, va essayer des moyens magiques, hein, des moyens kabbalistiques pour essayer d'attirer à lui la jeune fille et de fléchir le père. Alors là, je vous lis un passage, dans la synagogue, voilà, entre Ronan, très là, plongé dans ses pensées, il marche comme en rêve, sans but, vers l'arche sainte. Il s'aperçoit que l'arche est ouverte et s'arrête surpris. L'arche sainte est ouverte. Qui est venu l'ouvrir? Pour qui a-t-elle ouvert ses portes au milieu de la nuit? Saint rouleau de la Torah, blottis les uns contre les autres, recueillis silencieux, en eux sont cachés tous les secrets, les mystères, les signes et énigmes, toutes les combinaisons de l'être depuis les 6 jours de la création jusqu'à la fin de toutes les générations. Et il est si difficile d'en dévoiler le sens, de percer le secret d'une énigme, d'un mystère si difficile. Il compte les rouleaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rouleaux. 9, c'est le mot émet, vérité, réduit à un chiffre. Et pour chaque rouleau, il y a 4 arbres de vie. 36, de nouveau 36. Il n'est pas une heure de ma vie où je ne me cogne à ce chiffre. Et ce qu'il signifie, ce qu'il veut dire, je ne sais, mais je sens qu'en lui est caché le sens profond. 36, c'est la valeur chiffrée du nom de Leï. 3 fois 36, la valeur chiffrée de Ronan. Et Leï se divise en Lo-He, non Dieu. Pas Dieu, pas par la voix de Dieu. Quelle terrible pensée, mais comme elle me fascine et m'attire. Voilà, donc ça veut dire que Ronan va essayer donc d'employer des moyens magiques pour s'attirer Leïlé. Et en fait, ça ne marche pas. Donc voilà, il va plonger dans le désespoir lorsque on annonce les fiançailles de Leïlé avec évidemment un autre garçon, un garçon beaucoup plus riche et que le père a choisi. Alors voilà ce que dit Ronan. Signer les fiançailles? Les fiançailles? Ce n'est pas possible! Ah non, rien n'a servi, rien! Ni jeu, ni ablution, ni nom et incantation, rien! Tout ça pour rien! Et que faire maintenant? Quel chemin prendre? À l'aide de quelle force? Il se tient la poitrine, les deux mains sur le cœur et se redresse. Ah, je vois le nom suprême en son expression duelle. Le mystère m'est révélé. Je vois, j'ai vaincu. Voilà, donc, en fait, Ronan, je crois que c'est à peu près la dernière fois qu'il parle, parce que il va mourir, en fait. Hein, il est très faible. Alors, vous voyez que parmi les moyens qu'il a employés, il y a en particulier le jeûne. Alors, le jeûne était un moyen, enfin, si on peut dire. C'était une des choses que faisaient certains ascètes, un moyen de se rapprocher de Dieu, mais qui peut évidemment affaiblir les gens. Alors, voilà. Donc là, lorsqu'il est dans cette synagogue, voilà. Des gens qui arrivent, Sender, par exemple. Ronan, alors, mon petit Ronan est ici, où est-il? Amenez-le-moi, que je le vois. Meyer aperçoit Ronan gisant à terre. Il dort, le pauvre, il dort par terre. Sender, il faut le réveiller, réveille-le, c'est la fête. Meyer, il ne se réveille pas. Premier, donc, plusieurs personnes. Il est mort. Il a laissé tomber de sa main le livre de l'ange Raziel. Donc ce livre est un livre kabbalistique. Il a été frappé de mal mort. Donc ça veut dire qu'il est mort dans le péché, quoi, en employant des moyens qui n'étaient pas autorisés. Voilà, donc on va s'interrompre là pour écouter une musique. C'est toujours sorti de cette anthologie qui s'appelle Jewish Culture, qui est culture, qui est très variée, que j'ai déjà fait entendre à plusieurs reprises. Et voici une valse de mariage duo Nano Pelé et Denis Cugnot.
Thank you.
Voilà, donc Ronan est mort, et puis maintenant il y a le mariage de Leia. Dans ce mariage, il se passe pas bien. Il y a donc ils ont invité, comme Sender est très riche, donc Sender est le père de Leia, ils ont invité beaucoup de gens. Il y a plein de pauvres qui viennent danser avec Leia, qui a de plus en plus peur et qui se sent de plus en plus mal. Alors, cette scène a été tournée donc dans le film qui a rendu le D-Book célèbre. C'est un film qui a été tourné en 1938 par Wajinski et où il y a une scène de la danse de Leia. Alors, elle danse avec des pauvres et puis elle danse aussi avec la mort qui, de temps en temps, prend à ses yeux le visage de Ronan, c'est-à-dire comme si elle dansait avec son amoureux, mais qui est mort, donc Ronan, donc qui est à la fois la mort et puis lui-même. Donc évidemment, avec le système du film, on peut avoir une surimpression du visage de Ronan sur le visage de la mort. Alors cette scène est extrêmement effrayante dans le film, et puis elle est aussi effrayante pour nous qui regardons cela donc des années après, puisque que sont devenus tous ces acteurs, tous ces figurants qui sont là, qui dansent dans cette scène. Évidemment, beaucoup sont morts. Bon, Wajinski, lui, a échappé. Un certain nombre d'acteurs ont échappé, mais évidemment, parmi ces gens qui tournent, il y a beaucoup, beaucoup qui sont morts. Alors là, il y a une discussion de Leia donc, pendant ce mariage avec sa grand-mère, qui s'appelle Frade. Et alors elle dit, Bob New, ce ne sont pas les esprits malins qui nous entourent, mais les âmes de ceux qui sont morts avant l'heure. Ils nous regardent, ils nous écoutent, oui, ils voient et entendent tout ce que nous faisons et disons. Frade, très effrayée. Que Dieu te protège, ma petite fille. Que dis-tu? Les âmes? Mais quelles âmes? Les âmes pures s'envolent au ciel et reposent dans la lumière du paradis. Et Leia reprend la parole. Non, grand-mère, non, elles sont ici, elles restent avec nous. Bob New, l'homme vient au monde pour une belle, une longue vie. Mais s'il meurt avant l'heure, qu'advient-il de sa vie inachevée? Où vont les jours qu'il n'a pas vécus, ses joies et ses plaines? Les pensées qu'il n'a pas eu le temps de mûrir, les actions qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir, et les enfants qu'il n'a pas eu le temps de mettre au monde? Où vont-ils, grand-mère? Où? Ici vivait un jeune homme, il abritait une âme élevée, des pensées profondes. Devant ses pas s'étendait un long chemin de vie. Et soudain, en un éclair, le fil de sa vie s'est rompu. Des gens étrangers sont venus et l'ont enterré en terre étrangère. Où est le reste de sa vie? Ses paroles qui se sont tues, ses prières interrompues. Bob New, une bougie, si sa flamme s'éteint, on la rallume et elle brûle à nouveau. Elle se consume jusqu'au bout. Mais une vie, grand-mère, une vie. Se peut-il que s'éteigne à jamais la lumière d'une vie non consumée jusqu'à la dernière goutte? Comment est-ce possible? Voilà, donc on voit que Leia est elle-même très, très perturbée. Et donc, finalement, donc il s'avère qu'elle est possédée par l'âme de Ronan, qui vit en elle et qui ne veut pas la quitter. Et à un moment, on rappelle toute l'histoire que j'ai racontée au début, c'est-à-dire l'histoire des deux hommes qui ont eu des enfants. Et le rabbin qui est venu pour l'exorcisme de Yele demande au père, à Sender, pourquoi quand est arrivé ce jeune garçon dans le village, ce pauvre jeune garçon, pourquoi il ne l'a pas... Il ne l'a évidemment pas reconnu puisqu'il ne l'avait jamais vu. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé qui il était? Et de savoir si ce n'était pas le fils de son ami décédé qui était promis à sa fille. Voilà, donc on reproche vraiment à Sender de ne pas avoir du tout cherché. Et donc c'est comme ça que s'est déclenchée cette terrible action, c'est-à-dire que Ronan est mort et que sa fille maintenant est possédée par un D-Book. Et voilà que le rabbin va quand même essayer de faire un exorcisme et de faire sortir le D-Book pardon de Leia. Voilà, et donc il lui dit, voilà des formule magique. Dieu, lève-toi, que tes ennemis se dispersent et s'enfuient devant toi, qu'ils se dissipent comme se dissipe une fumée. Esprit pécheur et rebelle, par la force du Tout-Puissant et par l'autorité de la Sainte Torah, moi, Azriel, fils de Hodesh, je brise tous les fils qui t'attachent au monde des vivants, tous les nœuds qui te lient au corps et à l'âme de Leye, fille de Han. Et donc Leye, par la voix du Dibou, crie « Malheur, malheur à moi !» Et par l'anathème, je te bannis de la communauté d'Israël. Promets-tu d'abandonner de ton plein gré le corps de la Vierge, Leye, fils de Hané, de ne plus y retourner? Leye Dibouk dit, je promets. Et donc, Leye dit, je me souviens, tes cheveux étaient soyeux, comme mouillés de pleurs, et tes yeux étaient tristes, tristes et doux. Tes mains avaient de longs doigts fins, jour et nuit, toutes mes pensées allaient vers toi. Mais tu m'as quitté et ma lumière s'est éteinte et mon âme a dépéri. Alors tu es revenu et dans mon cœur a refleuri de la mort une vie. Mais pourquoi m'as-tu encore abandonné? Il y a la voix de Ronan, j'ai brisé toutes les barrières, j'ai passé par-dessus la mort, j'ai lutté contre de puissantes, de redoutables, d'impitoyables forces. Et j'ai quitté ton corps pour revenir en ton âme. Leye, reviens à moi, reviens en mon âme, mon fiancé, mon époux, je te porterai mort dans mon cœur. Et dans mes rêves, nous bercerons ensemble nos enfants non venus au monde. Le cercle est brisé. Je te vois, mon époux, viens à moi, viens à moi. Et des voix disent, menez la fiancée au dé de la noce. Leye, une grande lumière s'épand. Je suis unie à toi pour l'éternité, mon promis. Ensemble, nous nous élevons plus haut, au plus haut. Rabbi Azriel, trop tard. Béni soit le juge de vérité. Donc ça, c'est ce qu'on dit quand quelqu'un meurt. Un Borour Dayan AMS. Voilà. Et donc, en fait, Leye meurt parce qu'elle ne veut pas se séparer de son amoureux, de l'homme qu'elle aime, enfin, et même s'il est devenu un fantôme, un Dibouk. Voilà, vous voyez que c'est à la fois très romantique, inspiré beaucoup par la Kabbale, par les superstitions, par les légendes qu'on se raconte. C'est un très, très beau texte qui est très beau en yiddish et qui a été très bien traduit par Batya Baum. Voilà, donc c'était donc le Dibouk qui s'appelle aussi Entre deux mondes, hein, Entre deux mondes, entre la vie et la mort, donc de Shalom Hansky. Et je vous dis Shalom Alechem, à la semaine prochaine. Merci Thomas. But you pay did it for yam the bum 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 bum. Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.